découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout le secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade.
Accident vasculaire cérébral, quelles sont les causes et remèdes? Docteur Yves Lubenga, bonjour.
Bonjour, Julie.
Vous êtes cardiologue? Alors, avec vous, nous allons aborder ces thèmes aujourd'hui. Les cas d'accidents vasculaires cérébrales sont de plus en plus fréquents dans notre société. Aussi bien les jeunes que les personnes adultes sont victimes de ce genre d'attaques. Nous voulons savoir aujourd'hui quels sont les signes majeurs d'un AVC et que faire lorsqu'une personne de votre entourage, dans votre entourage immédiat, présente ces signes. Docteur Yves Lubenga, d'abord, la première question est de savoir quelles sont les causes ou les raisons qui font qu'aujourd'hui, on enregistre de plus en plus des cas d'AVC chez les jeunes, chez les adultes, voire même chez les jeunes.
Merci pour la question, Jody. C'est vrai que la recrudescence de l'accident vasculaire cérébraux dans mon milieu a pour grande cause le mauvais contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire. En effet, l'accident vasculaire cérébral est une entité qui survient chez des sujets, en général en tout cas, chez des sujets qui sont prédisposés à le faire en couvant certaines maladies ne sont pas bien soignées. Alors, c'est vrai qu'il existe une fraction, un pourcentage d'accidents vasculaires cérébraux qui est lié à certaines malformations vasculaires dans le cerveau, et donc qui sont difficilement évitables. Par contre, la grande majorité relève du bon contrôle ou du mauvais contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire qui, finalement, sont des facteurs contrôlables et qui sont modifiables pour l'essentiel.
Voilà. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui sur la proportion ou le pourcentage des personnes qui font... je sais que dans notre pays, il est difficile d'avoir des statistiques, mais est-ce qu'on a, ne plus que les estimations? Alors, il n'est plus en ligne, désolé, nous allons tenter de le rappeler. Il s'agit du docteur Yves Lubenga, il est cardiologue, avec lui nous parlons aujourd'hui de l'accident vasculaire cérébral, quelles sont les causes et remèdes. De plus en plus, on signale des cas d'AVC chez les personnes adultes, voire même chez les jeunes gens. Alors, qu'est-ce qui est à la base de cela? Ce thème vous intéresse, n'attendez pas les dernières minutes. Composez déjà le 081-890-63-94, écrivez-nous également à service @radiokapi.net pour vous poser vos questions. Et merci à ceux-là qui nous ont écrit sur la page Facebook du magazine Okapi Service. Nous avons par exemple deux ou trois auditeurs qui nous ont écrit. Jeannot Kindele nous dit: peut-on guérir de l'AVC et quelles sont les précautions à prendre si on connaît une telle attaque? C'est la question de Kindele, Jeannot, il nous a écrit des Boutembo, merci. Et Jotia, qui à Onvoko, nous a écrit depuis Arou, voilà. Il se trouve à Arou, en province orientale. Il dit ceci: à quelle époque cette maladie a fait son apparition? Quels sont les symptômes? Est-ce qu'un AVC est transmissible? Voilà, autant de questions qui vont trouver les réponses certainement dans cet échange que nous avons avec notre invité. Il s'agit de Dr Yves Lubenga, cardiologue. Alors docteur, j'ai posé la question tout à l'heure de savoir si on a une idée sur les proportions par rapport à cette maladie. Est-ce qu'on a une idée sur les statistiques aujourd'hui?
Ok, donc j'étais en train de dire à dire avant que nous soyons coupés que les statistiques congolaises à ce propos ne sont pas encore disponibles. Il y a des études qui sont menées, mais qui ne sont pas encore publiées à l'ordre à l'échelle nationale. Mm-hmm. Par contre, ce que l'on fait, c'est que dans les pays occidentaux, le décès par accident vasculaire cérébral constitue la troisième cause de décès dans ces pays, après l'infarctus du myocarde, et des pathologies cancéreuses. C'est pour vous montrer à quel point cette entité qui chez nous semble être nouvelle, est déjà bien connue sous votre pression.
Voilà. Est-ce que, alors, parlons-nous maintenant des facteurs de risque. Quels sont ces facteurs qui prédisposent certaines personnes à connaître un AVC?
D'accord. Alors, il y a des pathologies assez courantes et souvent négligées, comme l'hypertension artérielle.
Oh, il y a encore coupure. Alors aujourd'hui, il y a un peu de souci au niveau de la liaison technique, mais ça va aller. On va tenter encore de retrouver notre invité dans quelques instants, Dr Yves Lubenga, cardiologue. Des questions et préoccupations, appelez-nous au 081-890-63-94 et écrivez-nous également à service@radiocapi.net et aussi, vous pouvez poster vos questions et préoccupations sur la page Facebook du magazine Okapi Service. Vous écoutez la radio Capi, nous voilà pour tous. Nous allons retrouver à présent notre invité, Dr Yves Lubenga. Aujourd'hui, l'entretien a été interrompu à cause d'un problème au niveau de la liaison téléphonique. Je pense que cette fois-ci, ça va aller. Docteur, nous étions en train de parler des facteurs qui peuvent prédisposer certaines personnes à connaître dans leur vie ces accidents, des cas d'AVC.
Oui, alors j'ai parlé de l'hypertension artérielle. Vous savez qu'il est commun d'entendre dans les chefs de nos patients qu'on souffre de l'hypertension artérielle, mais on prend des produits quand la tension monte. Et ben, cette pratique qui est complètement dangereuse et mauvaise prédispose les patients à développer des événements cardiovasculaires de type accident vasculaire cérébral. Il y a le diabète. Les patients diabétiques qui prennent leur traitement de manière incorrecte ou qui n'en prennent pas du tout, sont disposés à développer des accidents vasculaires cérébraux. En dehors de ces deux grandes maladies, il y a par exemple le problème du cholestérol. En effet, la mauvaise alimentation pourvoit l'individu à du mauvais cholestérol, qu'on appelle le LDL, qui lui aussi contribue à développer des accidents vasculaires cérébraux. Alors, ces trois entités que j'ai citées, à côté d'elles, on voit l'obésité, on voit le tabagisme, on voit l'alcoolisme, œuvrent par le même boulevard qui s'appelle l'athérosclérose et débouche sur une issue fatale, qui est l'accident vasculaire cérébral.
Alors, pouvez-vous nous expliquer comment se fait cet accident, ça se fait à quel niveau et comment une personne et quels sont les signes qui peuvent aider l'entourage à savoir qu'il s'agit d'un cas d'AVC?
D'accord, je vais commencer par comment ça se fait. Eh bien, ce qui se passe, c'est que le patient va développer du fait de la conjonction de plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire dans son système nerveux cérébral. J'entends par là le cerveau, qui est un tissu comme tous les autres, qui comporte des artères nourricières. Et bien, ce qui se passe, c'est que dans le chef de ces artères, il y a une oblitération du passage sanguin qui se fait à un moment X avec comme corollaire, donc avec comme conséquence, une diminution de l'apport sanguin dans le territoire qui était vascularisé par cette artère. Le système nerveux central, donc les nerfs, sont des tissus qui ne se régénèrent pas. Ça veut dire que quand un nerf est mort, il est mort pour toujours. Et bien, ces tissus vont rester en souffrance pendant un laps de temps. Et lorsque ce laps de temps est dépassé, et bien, on passe de la souffrance à la mort. Et lorsqu'il y a une mort du tissu cérébral dans le cerveau, et bien, le tissu cérébral mort va entraîner des conséquences sur la motricité et la sensibilité de l'individu, c'est-à-dire que s'il s'agit du groupe de nerfs qui résidait dans le mouvement du membre supérieur, eh bien, le patient ne pourra plus exécuter ce mouvement. S'il s'agissait du groupe de nerfs qui présidait dans le mouvement des membres inférieurs, eh bien, le patient ne va plus bénéficier, ne va plus pouvoir exécuter ces mouvements. Et la conséquence de tout ça, c'est une impotence fonctionnelle et un handicap qui souvent demeure et irréversible. Alors, ce système ou ce mécanisme que je viens d'invoquer, c'est le mécanisme le plus courant d'une catégorie d'AVC que nous appelons les AVC ischémiques. Donc, à côté de ce mécanisme, que l'on rencontre dans 80% à peu près d'accidents vasculaires cérébraux, il existe un autre mécanisme où les artères nourricières du cerveau, plutôt que d'être bouchées, éclatent à cause d'une malformation congénitale. Donc il y a certaines personnes qui naissent avec des artères cérébrales mal formées ou à cause d'une malformation acquise comme ce que l'on observe dans l'hypertension artérielle. Et donc sur des artères déjà altérées, lorsqu'il y a un pic tensionnel, et parce qu'on va à l'hôpital et on fait une élévation de la tension, ou même à la maison, et bien ces artères éclatent. Il se constitue donc une connexion sanguine dans le cerveau.
Oui.
Et tout le monde sait que la boîte crânienne, qui est le contenant du cerveau, n'est pas expansible. Lorsque il se collecte du sang dans la boîte crânienne et que celle-ci n'est pas expansible, et ben c'est le cerveau qui est comprimé. Cette compression va entraîner les mêmes conséquences que celles que je viens d'évoquer pour l'accident vasculaire ischémique.
Voilà. On retient les mécanismes, comment ça fonctionne. Souvent, donc, on peut dire qu'en des termes simples, lorsque le cerveau ne reçoit pas le sang, il y a blocage quelque part. Ça crée, disons, un manque. Et cela déclenche un AVC. Et vous avez parlé aussi des nerfs qui éclatent au niveau de la tête, c'est ça? Et qui causent un accident.
Ouais, donc j'ai dit des vaisseaux sanguins qui sont au niveau de la tête et qui eux aussi donnent la même symptomatologie que lorsque ils sont bouchés.
Et ces vaisseaux éclatent pourquoi? Parce qu'il y a eu une forte pression sanguine.
Parce qu'il y a eu une hypertension artérielle qui est montée de manière brutale et qui rencontre un terrain vasculaire déjà au préalable altéré.
Bien. D'accord, nous allons parler des symptômes, des signes qui peuvent nous révéler qu'il y a eu un AVC dans la vie d'une personne. Avant cela, nous allons accueillir un auditeur, Paulin, qui nous appelle des Kananga, dans la province du Kasaï occidental. Vous voulez également participer à cette émission, composez le 081-890-63-94.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explication et débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Bien, nous parlons aujourd'hui des AVC. Quelles sont les causes et remèdes? Paulin nous appelle des Kananga, dans la province du Kasaï occidental. Bonjour.
Bonjour, Jody.
On vous écoute, Paulin.
Oui, Jody, je voulais juste poser mes deux questions à notre invité, parce que nous parlons de l'AVC.
Oui.
Je voulais savoir, est-ce que réellement quelqu'un dans un tableau d'AVC peut être encore récupérable? Ça, c'est la première question. La deuxième question était celle de savoir... La majorité de ceux qui meurent de l'AVC meurent surtout à confusion des diagnostics. Ici, dans notre milieu, nous n'avons pas tellement de matériel qui nous permettent de faire ces diagnostics-là, entre autres les scanners. Il y a des gens qui viennent avec un problème d'AVC chimique ou ça hémorragique. Maintenant, par manque de distinction, nous ne savons pas, et par manque des appareils nécessaires, nous ne savons pas distinguer ces deux types d'AVC là. Est-ce que l'invité peut nous donner les diagnostics? Est-ce que les moyens peuvent nous permettre à faire ces diagnostics là plus précisément pour les distinguer afin de faire une bonne prise en charge?
D'accord, merci pour là. Georges, vous êtes à Manono dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama. Bonjour aussi à notre invité,
Michel. On vous écoute, Georges.
J'aimerais demander à notre invité. Est-ce que le fait de voyager avec le vélo chaque jour peut aussi être à la base de cette maladie d'AVC? Je prends par exemple, nous avons un ami qui a toujours eu l'habitude de faire les voyages à 45 km, là où il va aller et retour. Qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué lorsqu'il rentre, il tousse. Après avoir toussé, on remarque qu'il y a l'apparition du sang dans ses traces. Alors j'aimerais savoir si cette pratique-là, c'est aussi l'AVC. Alors, j'aimerais encore demander la nourriture que doit manger mon ami là pour éviter l'endurance de cette maladie. J'aimerais aussi demander la dernière question à notre invité. Est-ce que cette maladie peut être mortelle? Voilà tout, monsieur.
Merci, Georges Desmanonor. Revenons à la question de Paulin. Il dit, est-ce que devant un tableau d'AVC, est-ce que la situation est-elle récupérable, docteur Yves?
Ok, merci Jody. Alors, pour répondre à notre auditeur, je dirais bien sûr qu'elle est récupérable. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les urgences vasculaires ou neurovasculaires, ce qui est important, c'est le délai de prise en charge. Le délai de prise en charge, c'est le timing qui existe entre l'apparition des symptômes et le diagnostic posé, de manière certaine. En effet, sous d'autres précieux, il existe ce qu'on appelle les unités neurovasculaires. En fait, ce sont des services où toute personne qui remarque chez elle un déficit neurologique, par déficit neurologique, j'entends la lourdeur d'un membre, que ce soit le membre supérieur ou inférieur, la disparition ou la difficulté du langage. Il y a des patients qui ont du mal, des difficultés d'élocution à des moments précis. Et bien, ces patients doivent se présenter immédiatement à l'hôpital, dans notre contexte, ou dans notre contexte, appeler les ambulanciers pour être récupérés chez eux. Alors, quand ils arrivent à l'hôpital, l'équipe médicale a un délai de moins de 3 heures pour poser le diagnostic. L'outil le plus utilisé partout au monde, comme l'a dit notre auditeur, c'est le scanner. Et bien, le scanner, c'est un examen d'imagerie qui permet de nous dire de quel type d'ATC il s'agit, en première intention. Je recommence, déficit neurologique d'installation brutale et progressive, urgence à l'hôpital, on fait un scanner. Le scanner vous dit de quel type d'accident il s'agit. Lorsqu'il s'agit d'un accident par obstruction d'une artère cérébrale, eh ben, il existe des médicaments que l'on administre aux patients qui font disparaître le déficit de manière spectaculaire dans les tissus. Ce traitement s'appelle une thrombolyse. Et a un pourcentage d'efficacité à plus de 80% lorsqu'il se fait en dehors 3 heures de l'apparition des symptômes. Alors, vous comprenez que c'est une pathologie que l'on peut récupérer. Lorsqu'il s'agit d'un AVC hémorragique, ou il s'agit plutôt d'un éclatement d'une artère avec collection sanguine dans le labo crânien, si cette collection est vers la paroi crânienne, on contacte directement un chirurgien qui va perforer le crâne, retirer cette collection sanguine, le patient récupère juste après l'opération. Mmh. Donc, si la prise en charge se fait de manière précoce, dans une institution où l'équipement existe et que le capital humain est compétent, le patient va récupérer. Mais qu'est-ce qui se passe d'ordinaire? C'est que le patient a son déficit, il arrive à l'hôpital 48 heures après, les lésions neurologiques étant déjà irréversibles, ben il ne récupérera plus, il gardera ses lésions et peut même mourir dans les jours qui suivent.
Oui, Paulin nous parle d'ailleurs d'un problème de confusion des diagnostics parce que à cause du manque des appareils dans nos provinces, à certains endroits, il n'y a pas assez d'équipements adéquats pour détecter, n'est-ce pas, cette maladie. Et il se demande qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour travailler malgré ce manque d'équipement.
Alors, je répondrai à Paulin que le médecin congolais est formé de manière à ce qu'il puisse poser des diagnostics, même avec très peu de moyens de type imagerie pour les explorations. Donc le diagnostic d'AVC, il peut être posé de manière clinique, juste en ayant un sujet qui se présente à l'hôpital, qui a un déficit neurologique, donc il n'arrive pas à mobiliser une partie de son corps, d'accord ? Ce tableau définit une entité que dans notre jargon nous appelons un déficit neurologique unicorporel. Maintenant, ce que le médecin va faire, c'est qu'il va essayer de voir si le patient a des facteurs de risque associés. Si ce déficit arrive chez un patient qui est hypertendu depuis 30 ans, qui ne se soigne pas, et qui au même moment a des chiffres fonctionnels très élevés, il y a quand même 81% de chances qu'il soit en train de faire un AVC. La limite que nous aurons, c'est celle de savoir comment soigner, parce que le traitement est différent selon le type d'AVC en présence. Et donc là, je suis tout à fait d'accord avec lui que beaucoup de patients peuvent nous échapper, peuvent décéder lorsqu'on est sous-équipé.
D'accord. Avant de répondre à notre auditeur Georges, nous avons deux autres auditeurs en ligne, Shadrach de Kananga et Hervé est à Kinshasa. Shadrach, bonjour, quelle est votre question?
Bonjour, je salue aussi l'invité. On va toujours parler de lui par les docteurs Pipomain. Je vais savoir comment le retentissement de l'hypertension artérielle sur le cerveau peut nous conduire à l'AVC. Et la deuxième question est de savoir pourquoi dans les urgences hypertensives, on parle toujours parmi les conditions de l'AVC. Ce sont là mes deux préoccupations.
Bien, merci. Hervé, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, je veux juste savoir quels sont les symptômes primaires de l'AVC et à quel âge on peut commencer à les remarquer, en fait, à quel âge ça peut avoir des effets physiques, en fait, visibles sur le corps humain.
D'accord. Docteur Yves.
Alors, merci pour les questions. Je vais répondre à la question dernière d'abord. Les symptômes d'AVC, je viens de le dire, ce sont des patients qui développent des déficits neurologiques dont les manifestations peuvent être une difficulté de mobiliser une partie de son corps ou un membre. Il peut s'agir aussi d'une déviation de la bouche. Il y a des patients qui viennent en se disant « j'avais l'impression que la bouche était déviée d'un côté ». Il peut s'agir d'une difficulté d'élocution. Quelqu'un qui est en train de parler comme moi là, et à un moment donné, j'ai les idées dans la tête, mais je n'arrive pas à les exprimer. Donc tout ça peut être des signes en faveur d'un AVC. Mais il y a quand même des éléments, des signes avant-coureurs. Il y a des patients qui sont chanceux, entre guillemets, qui développent ces symptômes pendant moins d'une demi-heure et ceux-ci disparaissent. Donc, ils viennent vous voir et ils disent « Docteur, je vais bien, mais hier, à un moment donné, je ne sentais plus mon bras, et puis après, une demi-heure après, c'est parti. » Donc, ils sont en train de développer des signes d'appel, des signes de menace, qui d'emblée orientent les médecins vers le diagnostic d'accident vasculaire cérébral, et sous cette forme-là, accident transitoire. Donc, ça, ce sont des patients chanceux. Mais dans la plupart des cas, c'est des patients qui viennent avec un déficit neurologique, qui intéresse une partie du corps. Et d'ailleurs, dans les cas les plus extrêmes, il arrive en coma. Le patient à l'hôpital, on vous l'emmène, il est en coma. C'est le médecin en l'examinant qui va définir et qui va retrouver une diminution de la motricité dans une partie du corps et va poser son diagnostic. Ce diagnostic sera soutenu ou confirmé par des explorations d'imagerie. Alors, pour répondre à... au précédent auditeur.
Oui, Chadrak qui a parlé du retentissement. Comment expliquez-vous le retentissement de l'hypertension sur les cerveaux et cela va entraîner l'AVC plus tard.
Tout à fait. Alors, en écoutant sa question, on sent qu'on a affaire à un carabin. Alors, je vais lui répondre en étant un peu plus simple encore. C'est que l'hypertension artérielle étant une maladie vasculaire, peut entraîner les deux types d'AVC. Hémorragique ou ischémique. Dans le deuxième cas, donc dans l'AVC ischémique, c'est qu'elle entraîne l'hypertension, un remaniement vasculaire au niveau cérébral avec constitution de certaines plaques. Et ces plaques, facilement, vont définir ou déterminer un site sur lequel vont venir se fixer certains éléments figurés du sang qu'on appelle les plaquettes. Et donc, il va se créer une obstruction dans cette portion-là, donnant une diminution du flux sanguin dans le tissu cérébral. L'AVC ischémique, que nous soignons, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque les diagnostiqués de manière précoce avec une thrombolyse. Par contre, l'hypertension peut donner un AVC hémorragique parce qu'elle entraîne une déformation vasculaire de type anévrisme qui, au moment de pousser, peuvent éclater parce que ce sont des zones de faiblesse des artères. Et donc, c'est par ces deux voies que l'hypertension artérielle détermine vasculaire cérébrale. Et pour dire urgence hypertensive, comme il a dit, en fait, dans le jargon urgence hypertensive, il y a deux sous-entités. Ce sont des entités anglo-saxonnes. On dit urgency et emergency. Et je pense que ça relève beaucoup plus de la faculté. Et nos auditeurs n'ont pas besoin de tous ces...
Mais tous ces termes techniques, voilà. Il faut être beaucoup plus simple pour permettre à un plus grand nombre de comprendre. Nous allons, vous allez également répondre à la question des gens qui nous disaient que son ami voyage à vélo chaque jour. Il parcourt 45 kilomètres à l'aller, tout comme au retour. En rentrant, il tousse. Et parfois, il y a des taches de sang au niveau des crachats. Alors, il se demande est-ce que c'est pas un signe d'un AVC, c'est pas un signe d'un AVC, quelle nourriture il peut prendre pour prévenir cela? Est-ce qu'un AVC est mortel? Voilà, ce sont là les questions des Georges de Manono.
Alors, pour répondre à Georges, je lui dirais d'emblée que non, son ami n'est pas en train de faire un AVC. Le fait qu'il fasse une activité physique d'endurance et qu'au terme de celle-ci, il se mette à tousser et à expectorer du sang, ne relève pas du tout d'un problème neurologique. Il relève beaucoup plus, à mon sens, d'un problème pulmonaire, un problème respiratoire. Il y a beaucoup de patients dans nos milieux qui développent la tuberculose, qui est pourvoyeuse de certaines séquelles pulmonaires qui peuvent déterminer le fait que la personne puisse cracher du sang comme ça lorsqu'elle finit une activité physique. Voilà.
Bien, mais il s'agit pas, c'est pas un signe d'un AVC, donc il peut se tranquilliser. Accident vasculaire cérébral, la question des causes et remèdes, pour participer, appelez au 081-890-63-94.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Accident vasculaire cérébral. Quelles sont les causes et remèdes? Blaise Kiboko nous appelle des Kikwit dans la province du Bandundu. Blaise, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
J'ai une seule question à poser à notre invité. Okay. Qui est celle de savoir si l'état psychologique d'une personne peut avoir des liens avec l'AVC, autrement, est-ce que l'état psychologique de la personne peut causer l'AVC? C'est ça les questions que j'avais.
Alors, un exemple précis par rapport à l'état psychologique, Blaise. Bon,
par exemple, des fois, quand j'étudie, vous allez voir que lorsque vous avez trop de surmenage, vous ne savez plus rien répondre et puis comprendre quelque chose. Alors, je vais savoir, est-ce que des surmenages comme ça, tout ce qui embrouille la tête, peut aussi être à la base de l'AVC?
D'accord. Docteur Yves.
Merci, Joly, d'avoir permis à l'auditeur d'éclairer sa question.
Oui.
Je n'ai pas bien saisi non plus. En fait, non, lorsqu'on est en train d'étudier et que on arrive à un moment, hein, on a tous un seuil de saturation qui dépend de la matière, mais aussi de la durée du travail. Et lorsqu'on atteint ce seuil de saturation, ça ne correspond pas du tout à un AVC. C'est qu'à un moment donné, sur le plan neurologique, on est un peu fatigué. Et pourquoi? Parce que on a consommé plein de calories en réfléchissant. Le substrat nutritif du cerveau, c'est le sucre et l'oxygène. Et donc, à un moment donné, après avoir beaucoup travaillé, on est saturé sur le plan nerveux. Et donc, en se reposant, en prenant de l'air, en mangeant, les choses s'améliorent. Ça n'a rien à voir avec un AVC. Par contre, lorsque quelqu'un subit un stress important, que ce soit un stress professionnel ou tout autre type de stress, et qu'il a des facteurs de risque de développer des événements cardiovasculaires de type AVC, et bien le stress va contribuer à l'accélération ou à la survenue de ce genre d'événements, juste en agissant sur une fluctuation tensionnelle qui sera à l'origine notamment des AVC hémorragiques. Donc le stress peut l'entraîner, mais il ne s'agit pas du surmenage tel que le décrit notre auditeur.
D'accord. Babela nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, je salue à l'invité.
On vous écoute.
J'ai une préoccupation peut-être dès la première préoccupation. Qu'est-ce qui peut expliquer quand on a un AVC, un âge plus avancé, on a beaucoup plus la chance de s'en sortir par rapport à un AVC à un âge un peu plus jeune. Parce que nous voyons beaucoup plus dans la société, les gens qui font l'AVC à un âge plus avancé, qui vivent encore, mais rarement les jeunes s'en sortent. Et puis deuxièmement, peut-être pour les alcooliques aussi. Qu'est-ce qui peut faire aussi des alcooliques aussi s'en sortent facilement avec un AVC?
Vous parlez des alcooliques?
Oui, oui.
D'accord. Vous dites que les alcooliques font souvent des AVC?
Non, ils s'en sortent. Donc, ça signifie, après, ils peuvent faire un AVC, mais s'il est alcoolique, ils peuvent survivre avec les AVC, certainement.
D'accord. Notre invité va répondre. Vous dites que les personnes âgées qui font des AVC s'en sortent facilement par rapport aux jeunes qui en meurent. C'est ce que nous dit Babela. Il parle aussi des alcooliques qui peuvent s'en tirer, qui peuvent voilà s'en sortir facilement par rapport à d'autres personnes. Docteur Yves, est-ce que c'est vous affirmez cela, vous confirmez ce que Babela nous dit?
Alors, par rapport aux alcooliques, non, je ne puis confirmer parce que je ne connais aucune étude qui sous-tend ces propos. Et d'ailleurs, sur le plan logiquement, ça devrait plutôt être le contraire. Mais pour revenir à ta question sur les décès, pour le faire beaucoup plus sur les sujets jeunes plutôt que les adultes, en fait, ce qui se passe, c'est que chez les plus jeunes, les accidents vasculaires cérébraux qu'on observe sont des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Ça veut dire que souvent, ils ont une artère dans le cerveau qui a éclaté et qui a entraîné une suffusion sanguine dans le parenchyme cérébral avec compression du cerveau tel que je l'ai expliqué précédemment. Et donc, ce cas-là qui relève d'une urgence médico-chirurgicale, pourquoi chirurgicale? Parce que chez certains patients, on est obligé de trépaner, donc d'ouvrir la boîte crânienne pour retirer la collection sanguine lorsque celle-ci est accessible. Et donc, on sait aussi que dans le milieu, les neurochirurgiens sont à compter du doigt d'une main pour toute la République. Donc, vous comprenez à quel point une urgence qui se présente comme ça, avec un neurochirurgien qui est à 10 000 km, c'est très compliqué. Et donc, ces jeunes gens décéderont, ils ont un pronostic beaucoup plus sombre. À l'opposé, les adultes, ceux qui ont des crises beaucoup plus des accidents vasculaires cérébraux ischémiques, avec une installation progressive, et donc ceux-là ont une entité qui bien souvent n'est pas mortelle, qui leur laisse un déficit, parce qu'elle peut être gérée médicalement, mais aussi parce que l'obstruction peut intéresser juste un petit territoire vasculaire, qui va juste entraîner chez l'adulte une diminution de la sensibilité, de la mobilité d'une partie de son corps, sans forcément l'emporter. Les facteurs qui tuent dans l'accident vasculaire cérébral, c'est ce qu'on appelle l'hypertension intracrânienne. C'est-à-dire que la boîte crânienne, qui est un contenant inextensible, doit subir des pressions à l'intérieur, parce qu'il y a un contenu qui a augmenté. Mmh. La conséquence, c'est que les zones qui préside à la respiration de l'individu, au battement cardiaque de l'individu, et ben ces zones seront comprimées et il y aura arrêt cardio-respiratoire. En fait, c'est ça qui tue dans l'AVC. Et donc, chez un adulte qui fait son AVC ischémique avec une petite hyperpression dans le cerveau, et ben cette hyperpression peut être gérée médicalement et tous les facteurs de mauvais pronostic peuvent être gérés. On a le temps de gérer ça et donc le malade va s'en tirer avec ou sans séquelles, mais dans la plupart des cas, vivant. Et enfin, pour mettre un petit bémol sur ce que je viens de dire,
oui.
Lorsque l'AVC survient chez un sujet âgé, même lorsqu'il s'agit d'un AVC de type ischémique, si le patient a plusieurs comorbidités, ça veut dire plusieurs pathologies au même moment, c'est un facteur qui assombrit son pronostic. Donc on peut faire un AVC ischémique chez un adulte, il y a plusieurs pathologies concomitantes, et bien celui-là, il a plus de risques de décéder qu'un sujet de son âge qui en a beaucoup moins.
Bien, voilà. On va terminer avec la question de Joachim, qui nous appelle des Demba, au Kassai Occidental. Joachim, bonjour.
Bonjour, salut à l'invité.
On vous écoute.
Je crois que je vis en milieu rural.
Oui.
Et depuis le début de l'émission, je me rends compte que nous qui vivons en milieu rural, nous sommes sacrifiés par cette maladie. C'est pourquoi je voudrais...
Sacrifié comment? Vous êtes sacrifié comment, Joachim?
Nous sommes sacrifiés par rapport aux signes pathologiques, par rapport aux interventions. C'est pourquoi je voudrais demander des précautions.
Oui.
Par rapport à nous qui vivons en milieu rural. Hein?
Oui.
Comment prévenir, c'est-à-dire comment éviter de ne pas tomber sous l'AVC? lorsqu'on est en milieu rural.
D'accord.
Lorsque on constate les signes, le septum, on est en milieu rural, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas arriver à cette maladie?
Bien, merci Joachim. Docteur Yves.
Alors, pour répondre à Joachim, je lui dirais que lorsque le patient développe ses symptômes, quel que soit l'endroit où il est, le médecin qui existe dans ce milieu est susceptible de poser le diagnostic. La difficulté, c'est dans la procédure ou les procédés de prise en charge. Vous savez qu'on a un problème, c'est que plusieurs médecins et plusieurs écoles prennent en charge des patients à leur manière. C'est pour ça que de plus en plus dans notre pays, il existe des manuels de procédure. Donc le médecin qui se trouve en milieu rural peut se procurer des manuels de procédure de prise en charge des AVC. C'est le même manuel, le manuel existe, il y en a un dans notre pays qui a été élaboré au Clinique universitaire de Kinshasa, qui est utilisé à grande échelle dans la capitale, que tout le monde peut obtenir, qui montre comment on arrive du diagnostic à la prise en charge et quels sont les facteurs qu'il faut contrôler pour que finalement le patient ne décède pas, d'une part, mais aussi qu'il ne garde que de rares ou d'infimes séquelles neurologiques. Donc, je pense que même en milieu rural, on peut se procurer un outil de type manuel qui va permettre au médecin, après avoir posé son diagnostic, de savoir prendre en charge le malade comme ça se fait en milieu urbain. Ce sont les mêmes, la prise en charge n'est pas compliquée, il suffit de suivre un certain algorithme qui est bien détaillé dans ce manuel de procédure, et ben, il y a de grandes chances d'amenuiser le risque de décès, mais aussi et surtout le risque d'impotence fonctionnelle, donc de handicap.
Alors, docteur Yves, oui. Alors, pour terminer, oui. Il a parlé aussi des mesures préventives, comment prévenir un accident vasculaire cérébral.
Alors, les mesures préventives, c'est pas compliqué. Première chose, avoir une bonne hygiène de vie. Hygiène de vie bonne égale une alimentation saine, éviction d'OGM, égale une activité physique régulière, au moins 30 à 45 minutes d'activité physique de manière hebdomadaire, trois fois, égale un bon contrôle des valeurs tensionnelles si le patient est hypertendu, égale une alimentation pas trop riche en fer, égale un bon contrôle du diabète sucré si le patient est diabétique. En respectant ces petites règles de vie, on peut réduire au grand maximum le risque de survie d'accident vasculaire cérébral. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore fait la maladie. Pour ceux qui ont déjà fait la maladie, parce que malheureusement, celui qui a fait un AVC n'est pas à l'abri d'en faire un autre, bien au contraire, il court beaucoup plus de risques d'en refaire. Et bien, pour ceux-là, en plus des mesures que je viens d'invoquer, et en fonction du type d'AVC qui a été développé, on leur met certains médicaments, notamment la simple aspirine dosée à 100 mg et d'autres médicaments contre le cholestérol pour éviter justement que cela ne provise.
Bien, voilà. Merci. Docteur Yves Loubenga, je rappelle que vous êtes cardiologue. Merci d'avoir répondu aux questions des auditeurs. Bon début de week-end et à la prochaine.
Merci, je dis au revoir.